Europe 1,
la France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans La France Bouge, bienvenue dans notre bulle d'optimisme. Ensemble, nous allons découvrir des femmes et des hommes qui osent, qui ont de l'audace. Et même quand c'est impossible, à La France Bouge, c'est possible. Au sommaire de votre émission, entre respect de l'environnement et surconsommation, comment la mode est-elle en train de se réinventer ? Cette marque française qui a 35 ans habille les enfants, mais aussi les adultes. Elle vient de lancer une ligne éco-responsable à base de plastique des océans. La directrice digitale d'IKKS est l'invitée de La France Bouge. À la une, la mode et une start-up qui fabrique des pulls à base de laine d'Ancora. Sa fondatrice a mis en place toute une politique de production de vêtements et d'accessoires qui favorisent et qui protègent les femmes péruviennes. Ça s'appelle Stella Pardo et on la découvre d'ici quelques minutes. Pas de vêtements sans les repasser, évidemment. Alors, une marque française qui appartient au groupe Seb a inventé le fer à repasser électrique. C'est Calor, vous connaissez sûrement. Et Charlotte Barrican nous racontera l'histoire de cette marque née à Lyon. Le pitch des trophées Europe 1 de l'avenir, ils ont une minute pour nous convaincre et avec notre partenaire, la CCI et bien sûr Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth. Alors aujourd'hui c'est Papa M'habille, une marque de vêtements pratiques pour que les papas s'approprient le placard de leur tout petit.
Rendez-vous à 13h45 pour la découvrir. Et puis en fin d'émission, demain au travail, cette entreprise a mis en place des aides pour les alternants, pour les former et surtout pour les garder. Rendez-vous à 13h50 pour demain au travail. C'est ça, La France Bouge. Bienvenue. Vous pouvez nous suivre en direct sur europe1.fr. C'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. La France Bouge, c'est votre rendez-vous des entrepreneurs français, des pépites françaises qui font bouger les lignes aujourd'hui. Entre l'urgence climatique, la surconsommation de vêtements, comment les marques sont-elles en train de se réinventer ? On en parle jusqu'à 14h avec notre témoin du jour. Bonjour Valérie Dacier.
Bonjour.
Bienvenue dans La France Bouge. Vous êtes la directrice marketing et digital d'IKKS. Votre marque existe depuis 1987. Vous êtes plus d'un millier de salariés, 800 salariés, dont 500 en France et un peu partout ailleurs. Ce sont des vêtements pour femmes, pour enfants, pour les hommes. Vous, les auditeurs, vous avez peut-être remarqué leur dernière campagne de pub avec Laetitia Casta. IKKS. Alors Valérie Dacier, comment ça va en ce moment ?
Bah écoutez, ça va bien. On sort d'un contexte qui est quand même compliqué, mais votre émission porte bien son nom. Hein. Regardons le positif des situations qui viennent devant nous. Ça va bien, vous l'avez dit, on a fait une belle campagne qui a du sens autour du recyclage du plastique des océans qu'on arrive à transformer désormais en fil pour en faire des marinières. Voilà, c'est un enjeu aussi pour tous. La planète, on n'en a qu'une, on n'a pas de planète B. Donc je pense que la mode doit aussi trouver les nouveaux ressorts et on en parlera, je crois, un
Alors,
peu plus longtemps.
Alors quand vous dites que ça va bien, Valérie Dacier, c'est un bon début d'année pour une marque de vêtements. Il y en a des tonnes, des marques de vêtements. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes revenu à des niveaux de 2019 ?
Ça veut dire que le business est un peu en dents de scie. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que sur le mois d'avril, on a recoupé les chiffres de 2019.
Super nouvelle.
Ce qui a pris du temps. Mmh. Mais voilà, ça veut dire que le soleil nous sourit. Heureusement, l'été arrive.
L'été arrive. Quand vous dites que ça va bien, est-ce que c'est dans les magasins ? Est-ce que c'est aussi sur le numérique ? Ce sont les deux ?
Oui, alors je le disais, hein, le business, il en dent de scie. On sent quand même que la perturbation du Covid, même si elle est un peu moins forte aujourd'hui, elle a marqué les esprits, peut-être des changements de consommation aussi. La guerre en Ukraine, de son côté, a aussi, je pense, perturbé hein, la façon dont les gens voient l'avenir. Donc c'est vrai que l'enjeu autour de nous n'est quand même pas facile. Et en même temps, on voit par exemple un nombre de mariages qui explose, de baptêmes. Donc là, le besoin de cérémonie a été très fort. Donc voilà, écoutez...
Mais vous ne vendez pas des vêtements de cérémonie, vous ?
On vend des jolies robes, des jolis costumes pour la cérémonie.
On va rentrer
et puis
dans
pour
le
les enfants. Et bon, voilà, que ce soit en magasin ou sur l'e-shop, il y a des mois où c'est plutôt très bien,
ça
des mois où c'est un peu moins bien.
Le numérique chez vous, ça représente quoi ?
C'est entre 18 et 20%
du business. Ah oui, quand même. Nathalie Carré.
Oui, bonjour. Et dans l'ordre historique, en fait, vous avez développé d'abord les enfants, puis après c'était la femme, puis l'homme. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est la collection femme qui est la plus rentable, qui rapporte le plus ?
Alors, celle qui prend effectivement le plus de parts de marché, c'est la femme. Vous avez raison. Alors, en même temps, on est une marque très atypique parce que démarrer par l'enfant pour faire du prêt-à-porter adulte ensuite, on est les seuls. Et donc, ça crée une particularité. Donc, dans l'ordre, effectivement, la femme en premier, l'enfant qui reste toujours très, très fort chez nous, et l'homme avec notre nouvelle égérie, Fabio Quartararo, le champion du monde français de MotoGP, qui prend de belles, très belles couleurs cette saison.
Bon, alors vous êtes entourée, c'est fait exprès, hein. Toutes les marques ne font pas ça. Vous choisissez Laetitia Casta et donc
Fabio Quartararo.
C'est un certain budget, mais ça, ça rapporte.
Bah, disons que c'est important pour une marque à un moment donné quand elle veut véhiculer notamment le CACES à repositionner complètement.
Mais c'est pour ça qu'on vous a aujourd'hui, c'est parce que vous êtes en train de vous repositionner.
Exactement, et donc à un moment donné quand on pense que notre message est fort, celui des esprits libres qui ne sont pas résignés, ça fait écho aussi à votre thème d'émission, mais qui voient plutôt l'avenir et qui ont envie de construire un avenir meilleur pour nos enfants, à un moment donné il faut le faire savoir et du coup de s'associer à la fois avec une Laetitia Casta qui est la femme, l'une des plus belles femmes du monde mais qui a un esprit libre par nature d'un côté, et puis Fabio Quartararo, on est out of the box. Enfin, qui pensait qu'un jour Fabio Quartararo deviendrait une idole de mode? Ben voilà, c'est fait, on aime bien ça, avoir de l'audace chez IKKS, et puis s'associer aussi avec cette jeunesse qui réussit, cette France qui réussit, porteur évidemment la moto, pour vous les hommes qui écoutez, la moto symbole quand même de liberté, donc qui mieux que Fabio pour l'incarner.
Alors si on a eu envie de vous avoir aussi Valérie Dacier, l'une des patronnes d'IKKS, hein, c'est parce que vous êtes en plein tournant, vous venez de sortir une ligne éco-responsable, vous l'avez un peu esquissé en début d'émission, cette ligne c'est quoi ?
Alors c'est une ligne qui fait écho à l'ADN de la marque. Elle a été fondée par quelqu'un qui adorait la mer, les océans, et donc qui a toujours eu ça chez IKKS. Et donc on s'est dit aujourd'hui, le plastique est un vrai enjeu qui pollue nos océans. Et depuis 18 mois, on fait de la recherche et développement avec nos partenaires. Et grâce au fil Sequal, qui recycle le plastique des océans, on a réussi à créer une marinière à base de ce fil-là.
C'est celle que vous portez, là ?
Alors, c'est pas exactement celle-là.
Ah, c'est la même, quand même.
c'est presque la même, sauf qu'elle est en fil Sequal. Mmh. Et en l'occurrence, elle a cette capacité à, quelque part, dépolluer les océans. C'est pas notre message, mais comme on récupère le plastique, on le transforme en produit, et ensuite on reverse 5% de nos ventes à une association qui s'appelle The Sea Cleaners, ce qui est l'association d'Yvan Bourgnon, le grand navigateur, qui lui-même est en train de construire un catamaran géant pour justement récupérer le plastique des océans. Donc on a un cercle vertueux. On donne du sens à la mode.
Alors, l'histoire est très belle, le sens est très beau, mais il y a combien de références là-dedans ?
Alors, on a 25 références, c'est une vraie grande capsule sur l'homme, sur la femme et sur l'enfant, qui va de la marinière, manches longues, sans manches, la veste qui est super belle, le maillot de bain, on a des shorts également. Enfin, bref, on a vraiment créé une vraie capsule avec cette vocation d'être dans cette démarche totalement éco-responsable.
Éco-responsable et en plus associée à une association, puisque vous reversez 5%
à The Sea Cleaners, qui est vraiment une association incroyable.
Nathalie.
Qui dit capsule dit temps limité. Est-ce que ça veut dire que toutes les saisons, vous allez avoir une nouvelle capsule avec de nouveaux produits, un nouveau matériau travaillé, ou ça restera, ou c'est une capsule qui va durer finalement dans le temps ?
Alors, vous avez raison. En fait, on va travailler sur deux piliers parce qu'il y a ces capsules qui sont très visibles sur lesquelles, en termes de vente, on explose les ventes. C'est-à-dire que quand on donne du sens, on l'a sorti il y a maintenant un mois.
Et alors ?
Et on est à plus de 15 000 pièces vendues, ce qui pour nous c'est des gros volumes.
Ouais.
C'est les meilleurs, ce qu'on appelle un taux d'effilement. C'est-à-dire combien de pièces je vends par semaine et par magasin, c'est le record historique de nos ventes. Voilà, depuis 1987 que nous sommes créés. Donc ça veut dire que quand on donne du sens à la consommation, évidemment les clients sont là. Et pour répondre à vos questions, il y a deux piliers. Il y a évidemment ce qu'on fait sur notre collection en général. Et aujourd'hui, on travaille de plus en plus de matières recyclées, de coton biologique. Voilà. Donc, il y a tout ce travail-là. Et puis, effectivement, l'idée d'aller jusqu'au boutiste sur certaines capsules. Celle de la marinière, c'est cette saison. Un petit secret, la prochaine, ce sera la saharienne, une consommation réduite de 70%
toujours
de l'eau.
Toujours avec l'histoire du plastique, ou il y aura autre chose ?
Réduction de l'impact de l'eau, de l'utilisation de l'eau avec des teintures végétales. Et donc, c'est vrai, le RSE, ce qu'on appelle chez nous le RSE, c'est-à-dire vraiment la préservation de notre planète, c'est le pilier numéro 4 de notre stratégie.
Mais elle est en train de passer en numéro 1, là.
Comme ça.
Hein, c'est en train de passer à la stratégie pilier numéro 1.
Ah bah,
hein, c'est le but.
Il
n'y
a pas d'ordre dans les 5 piliers entre la marque, le produit. Il n'y a pas d'ordre. En tout cas, c'est clairement dans la priorité de la marque.
Vous restez avec nous, Valérie Dacier. Vous êtes la directrice digitale d'IKKS. Hein. Vous êtes revenue là, en ce mois d'avril à des niveaux de 2019 et vous cartonnez avec cette nouvelle collection capsule qui s'appelle Free the Sea, hein, composée de plastique d'océan. Vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Et si vous nous rejoignez, bienvenue dans La France bouge, l'émission qui met en avant les entrepreneurs français, les pépites françaises. Aujourd'hui, on parle de nos vêtements et oui, on en a assez de cette surconsommation. Et nous sommes avec vous, nous sommes ravis d'être avec vous, Valérie Dacier. Vous êtes la directrice générale adjointe d'IKKS. Vous êtes notre grande patronne du jour. Alors, vous nous l'avez dit depuis le début de l'émission, on a envie de consommer différemment des vêtements. On a envie d'arrêter cette surconsommation, d'acheter. Mais ça signifie quoi? Que vous avez diminué vos collections? Il y en a moins par an?
Alors, on travaille un peu différemment. On fait beaucoup plus de séries limitées, en fait.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on a une collection un peu classique, dont on fait attention sur le nombre de références. Et puis, on vient ramener un peu de nouveautés, mais sur des collections beaucoup
différentes,
plus courtes et qui soient moins profondes en quantité. Donc, effectivement, rupture de stock plus vite, hein,
oui,
mais qui sont aussi... qui ne donne pas de lieu à du résiduel derrière.
Donc il y a moins de surstock qu'on pouvait avoir il y a encore 4-5 ans.
Absolument.
Et est-ce que vous pourriez faire du réassortiment à la demande? On était à 3 il y a 2 jours avec Petit Bateau, qui a mis en place ce processus industriel qui fait que si un produit marche, en 4 jours, ils peuvent le reproduire. Est-ce que chez IKKS, c'est possible?
Oui, alors il y a des premiers travaux qui ont été réalisés, notamment avec une des marques du groupe qui s'appelle iCode, hein, parce qu'il y a 3 marques dans le groupe IKKS. Il y a IKKS, iCode et One Step. Effectivement, grâce à une start-up, on a démarré tout le travail de création à la demande, ça nous permet de mesurer finalement les quantités à produire. Et puis, on avait, en tout cas, on espère qu'on aura de nouveau des partenaires en Ukraine, avec des équipes qu'on a malheureusement rapatriées en France,
bien sûr,
mais qui travaillaient justement sur des toutes petites quantités, des petits volumes, pour s'assurer d'être le plus proche possible de la consommation.
Nathalie?
Oui, alors justement, vous l'avez dit, vous avez plusieurs marques, dont One Step et iCode. Et pourquoi pas essayer de rationaliser justement toutes ces marques? Parce que du coup, plus il y a de marques, plus il faut produire, plus c'est des styles différents.
Et on s'embrouille, nous, consommateurs.
Oui, alors nous aussi, oui aussi.
C'est vrai.
Oui, vous avez raison. Alors, la particularité des marques du groupe, c'est que par définition, elles s'adressent à des cibles de clientèle qui sont différentes. Donc, on a 3 marques, 3 cibles de clientèle. iCode pour une clientèle plus jeune, aux alentours de 18, 25 ans, 30 ans. IKKS qui est plutôt sur la trentenaire quadra et puis One Step qui est un peu plus pour les femmes un peu plus matures. Donc en fait, on n'a pas des marques qui s'auto-cannibalisent, j'ai envie de dire.
Elles ont chacune leur identité.
Exactement.
Et leur particularité.
Exactement.
Vous restez avec nous, Valérie Dacier, dans cette galaxie de vêtements. Nous, on a trouvé aussi une entreprise très atypique. Hein. Bonjour, Cynthia Guerrero.
Bonjour.
Je vais vous demander de vous rapprocher votre micro,
oui,
pour que tout le monde puisse vous entendre. Vous êtes la fondatrice et la créatrice de Stella Pardo. C'était le nom de votre grand-mère, je crois, c'est ça.
Exactement.
Stella Pardo, entreprise qui a 12 ans. Vous fabriquez, vous créez des pulls, des cardigans, tout dans de la laine d'alpaga. C'est bien cela.
Exactement, hein, et du coton pima également.
Et du coton pima, c'est ce qui fait votre particularité.
Oui, notre particularité, c'est qu'on était l'une des premières marques, il y a 13 ans, à faire du commerce équitable, et surtout du commerce équitable de luxe.
Très avant-gardiste.
Oui, parce que c'était pas du tout la tendance c'était plutôt la tendance du fast fashion.
Oui, c'est-à-dire de 4, 5, 6 collections
voilà,
par
et
an.
Moi, j'ai pris le contre-pied de tout ça, et comme je suis née au Pérou, et j'ai été élevée par une maman célibataire, j'ai décidé de retourner au Pérou, et de travailler avec des mamans célibataires pour qu'elles deviennent indépendantes, qu'elles deviennent auto-entrepreneurs, ce qui n'existait pas non plus à l'époque.
Et, oui, vous avez...
et qu'elles puissent travailler de chez elles, en s'occupant de leurs enfants, et en créant des pièces entièrement faites à la main.
Des créations uniques.
Oui,
et vous permettez
collections.
De protéger ces femmes célibataires qui vivent dans des conditions très compliquées. Vous, au contraire, vous leur apportez une juste rémunération. Il faut savoir aussi que tout est parti d'un projet humanitaire. Vous n'étiez pas du tout destinée à faire du business travailler dans la mode.
Non, pas du tout. Enfin, si, avant Stella Pardo, j'ai travaillé chez LVMH. J'étais toujours un peu dans l'univers de luxe, mais pas très longtemps, parce que j'ai tout de suite su ce que je voulais faire. Je voulais aider mon pays d'origine, et je ne savais pas encore de quelle manière. Et donc, j'ai vu lors de mes voyages où j'allais là-bas pour faire mes petites interventions humanitaires avec ma famille, j'ai vu une opportunité de business en créant cette marque Stella Pardo et en créant un produit qui n'existait pas encore sur le marché.
Alors petit à petit, ça s'est construit, ça s'est transformé en entreprise.
Oui.
Aujourd'hui, Stella Pardo, c'est quoi ? Donc vous êtes mis sur le créneau de l'alpaga. À une époque, là aussi, vous êtes hyper avant-gardiste. Vous faites de la RSE, c'est avant-gardiste. Vous mettez les femmes péruviennes en auto-entrepreneur, ça n'existait pas. Hein. Ça arrivait en 2008, l'auto-entrepreneuriat ici. Et vous vous intéressez à l'alpaga alors qu'ici, tout le monde veut du cachemire.
Exactement. Et il y avait très peu de gens qui connaissaient l'alpaga. Et même sur les marchés avec des professionnels de la mode, sur les grands salons internationaux comme le Who's Next, les gens ne connaissaient pas cette matière-là. Elle était très peu connue du grand public, excepté pour des marques comme Hermès. Et donc, moi, j'avais envie d'apporter ce nouveau produit sur le marché avec un prix un peu plus accessible
les grandes marques de luxe que nous connaissons. Nathalie ?
Votre objectif, c'est quand même principalement d'aider les femmes du Pérou. Pourquoi vous ne vous vendez pas principalement en Amérique du Sud, finalement, parce qu'il n'y a pas assez de pouvoir d'achat ? Parce que là, vous designez en France, vous fabriquez au Pérou et vous vendez en France.
Exactement. Alors, on ne vend pas qu'en France, on vend notre plus gros marché, les États-Unis. On vend également en Asie, au Japon, en Italie, en Allemagne. Enfin, on a plusieurs points de vente à l'international. Et ça reste néanmoins un produit de luxe équitable et accessible. Non pas comme des grandes maisons, mais ça reste néanmoins du luxe. Donc moi, mon marché, il est plutôt en Europe. Enfin, c'est plutôt des Occidentaux.
Et puis parce que le prix moyen, il est quand même assez élevé, mais... il est entre quoi ? 300, 500 euros ?
Oui, entre 300 et 450 euros pour la majorité de nos pièces.
C'est du très haut de gamme. Il faut savoir combien de temps il faut pour entre le moment où vous créez la pièce et le moment où il arrive chez moi ?
6 mois.
6 mois
de travail. Maintenant, une pièce Stella Pardo nécessite minimum une journée et demie de travail. Et il y a certaines pièces qui nécessitent 2 semaines complètes de travail.
80 femmes travaillent pour vous chez Stella Pardo. Le numérique dans tout ça, on peut aussi acheter en ligne ?
On peut également acheter en ligne. On livre dans le monde entier.
Vous livrez dans le monde entier. Quel regard portez-vous, Valérie Dacier, notre grand témoin du jour, directrice générale adjointe d'IKKS ?
Je trouve ça évidemment formidable. On parlait de donner du sens finalement. Alors je pense que vous donnez du sens à la fois à la mode, mais je pense que vous donnez du sens aussi à votre vie. Donc quand tout ça se rassemble dans une histoire, c'est quand même exceptionnel. L'idée même d'aller faire que ce produit fasse vivre des femmes, leur indépendance, leur liberté propre, et que derrière ça nourrit aussi la satisfaction d'autres femmes à travers un produit exceptionnel, fait main. Bon voilà, que dire d'autre que bravo, et puis peut-être qu'on va se croiser pour regarder si on n'a pas quelque chose à faire ensemble.
Stella Pardo pour IKKS.
Exactement.
Ou l'inverse, une capsule IKKS. Non, c'est bien, une capsule Stella Pardo pour IKKS. La marinière en alpaga, c'est pas mal.
En coton pima,
on la ferait. Allez, on vous laisse discuter. Merci à vous, Cynthia Guerrero, d'être venue aujourd'hui dans La France Bouge, fondatrice et créatrice de Stella Pardo. Il est 13h23 sur Europe 1.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bien sûr qu'elle bouge cette France et on le voit chaque jour entre 13h et 14h autour d'un grand témoin du jour. Aujourd'hui, on parle vêtements et entre l'urgence de la planète, notre surconsommation, il faut vider les placards et peut-être acheter mieux, en tout cas acheter des vêtements, des produits qui ont du sens. Nous sommes toujours avec vous Valérie Dacier, vous êtes la directrice générale adjointe de la marque IKKS. Alors vous nous l'avez dit depuis le début de l'émission, ça va très bien, vous êtes revenu à des niveaux de 2019, vous cartonnez avec cette collection capsule à base à partir de plastique des océans. Tout ça, c'est pour la partie RSE, hyper important, mais toujours pas de fabrication française.
C'est toujours un grand débat. J'ai envie de dire, si on pouvait, on le ferait.
Ils nous disent tout ça.
Ça reste compliqué. Ça reste compliqué. Alors déjà, le pays s'est désindustrialisé énormément.
Oui, bien sûr, mais ça revient gentiment.
Ramener. Absolument.
Parce qu'on a plein de savoir-faire chez nous.
Absolument. Et ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de rapprocher, en tout cas, de plus en plus le sourcing. Je pense que la crise, clairement, du Covid nous a montré à quel point on était dépendant, finalement, d'un certain nombre de pays. Donc,
alors, vous sourcez où aujourd'hui ?
Alors, on a deux typologies. Alors, ça dépend déjà si on est sur de l'enfant ou sur de l'adulte. Sur l'enfant, force est de constater que l'industrie, dans le monde entier, que l'industrie, notamment des grosses pièces, des parkas et autres, sur lesquels IKKS est très connu, le savoir-faire est en Chine. Voilà. Et quand on cherche à faire la même...
Faire c'est quoi? C'est le zip de la fermeture éclair? Alors, non, c'est le rembourrage de...
Oui,
c'est quoi?
C'est la maîtrise de l'ensemble des matières, parce qu'il y a de la techno dans beaucoup de nos produits, de la technologie dans les matières, dans les associations de produits, dans les associations de finition, dans la qualité des finitions. Donc on est en train d'essayer de trouver quels sont les sourcings plus proches de chez nous, pour pouvoir répondre à ces technologies et à cette maîtrise.
Donc les grosses pièces en Chine.
Voilà, alors sur l'enfant, c'est le cas. Et puis sur l'adulte, on a pas mal de sourcing à la fois au Vietnam aussi, en Inde pour tout ce qui est broderie, parce qu'encore une fois, il y a un savoir-faire. Et puis de plus en plus, on le rapproche. Donc on a le Portugal qui commence à rentrer de plus en plus dans notre assortiment d'entreprises et de partenaires. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que toute la démarche, je pense, du monde de la mode en général, et d'ailleurs pas que cette industrie, est en train de rapprocher
Alors,
nos partenaires.
Quels sont vos projets? Peut-être d'arriver un petit peu à fabriquer en France au moins quelques produits?
Ouais, alors pareil, on utilise notre petite marque Ecode pour faire des tests. La start-up dont je vous parlais, Tekin, tout à l'heure, on parlait de commande à la demande, c'était la start-up avec laquelle on a travaillé, mais elle fabrique en France. On a aussi, nous rapprocher énormément, on a beaucoup de notre production qui était en Ukraine. Et je tiens à les saluer parce que imaginez que même dans le contexte dans lequel ça a été, les gens qui travaillent pour IKKS en Ukraine étaient tellement mobilisés. Alors ces derniers jours, on les a tous rapatriés depuis 10 jours
maintenant.
Donc
ils sont en France là ?
Là, ils sont en France. On a des piqueuses qui sont arrivées hier en bus. Je vous assure, on a les vidéos, c'est extrêmement émouvant. On les a logées près de Cholet, puisque notre siège social est à côté de Cholet. Des équipes ont repeint l'ensemble des bâtiments dans lesquels ces personnes viennent pendant 4 mois, 6 mois, un an, si elles souhaitent rester.
Elles sont nombreuses, elles sont combien ?
Il y a une quinzaine de personnes qui est arrivée avec leurs enfants.
15 personnes arrivées d'Ukraine hier,
voilà,
des familles entières.
Voilà, avec leurs enfants qui sont scolarisés.
Que vous prenez en charge.
Qu'on prend en charge, scolarisés, avec beaucoup d'émotions. Une mobilisation des équipes chez IKKS, c'est touchant parce qu'on a été très meurtri. C'est des gens qu'on ne voit pas très souvent.
Non, mais vous êtes en lien avec eux.
Mais qui faisaient partie intégrale d'IKKS. Et avec, pour ceux qui sont restés, beaucoup d'hommes aussi, ils ont réussi à créer 25 000 pièces malgré tout.
Formidable.
Qui nous ont été envoyées. Donc l'Ukraine est un berceau aujourd'hui qu'on a rapproché. C'est un peu une spécificité chez nous.
Ouais.
Et on va tout faire pour redonner cette puissance à ces équipes quand elles auront la possibilité, j'espère le plus tôt possible, de rentrer chez elles.
Avec la Russie, vous avez des liens?
Aucun.
Vous avez arrêté?
On n'en avait pas.
Vous n'en aviez pas. Chaque jour dans La France Bouge, Valérie Dacier, on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise, d'une association ou d'un produit qui traverse les années, qui sont toujours là en France. Aujourd'hui, on va repasser nos vêtements. Retour sur le tout premier fer à repasser électrique. Il est fabriqué en France à Pont-Évêque, hein, pas Pont-l'Évêque, à Pont-Évêque en Isère. C'est Calor et c'est la saga du jour.
Europe 1, La France Bouge, la saga.
Bonjour Charlotte Barrican.
Bonjour Elisabeth.
Elle est un objet, le fer à repasser électrique. C'est une innovation française. Elle est née à Lyon par la marque Calor, qui appartient au groupe Seb.
Et oui Elisabeth, Calor est née en 1917 des mains de deux ingénieurs français. Ils déposent un brevet quelques années plus tôt, celui du premier fer à repasser électrique en Europe. Alors oui Elisabeth, on repassait déjà à l'époque, mais ce n'était pas tout à fait pareil. Comme nous le raconte Sandrine Besson, responsable culture et patrimoine du groupe Seb.
Oui, avant on repassait le linge, mais on avait des fers à repasser en fonte, où on chauffait la plaque sur un fourneau. Si on retourne encore un petit peu en arrière, où il y avait des systèmes avec de la braise, c'était pas électrique.
Alors le fer à repasser électrique Calor est un succès, c'est un gain de temps, le top du confort pour les foyers français.
Mais c'est quoi la recette du succès alors?
Eh bien Elisabeth, c'est une prouesse physique. En fait, on y intègre une résistance électrique. Concrètement, c'est ce qui permet de retenir l'électricité et donc que l'objet n'explose pas ou qu'on ne s'électrocute tout simplement pas en prenant son fer à repasser dans les mains. Et l'entreprise Calor ne se contente pas d'un seul produit. Très vite, elle constate un nouveau phénomène. On ne peut pas contrôler la chaleur de son fer à repasser et cela abîme les vêtements.
En 1932, Calor va lancer le fer à repasser automatique thermostat, donc qui va permettre d'adapter la température du fer à la qualité du linge et ça va éviter de brûler les tissus les plus fragiles. Ensuite, on arrive en 1953 où Calor va commercialiser le fer à vapeur vapomatique. Alors là, c'est une véritable innovation qui va combiner l'utilisation de l'eau pour créer de la vapeur dans un appareil électrique. Et donc le vapomatique va lui aussi rencontrer un énorme succès auprès des consommateurs.
Et qui dit eau dans un produit électrique dit tartre, alors qu'Alor fait partie des premiers à installer des tiges anti-tartre dans leurs appareils qui, cocorico, sont fabriqués en France, à Pont-Évêque, en Isère, sur un site de 700 collaborateurs.
Et Charlotte, en plus de 100 ans, l'entreprise s'est totalement développée.
Et oui, c'est le cas. Alors, elle a toujours une très grosse activité dans le domaine du soin du linge, mais elle s'étend aussi dans le soin de la maison, avec des radiateurs et des ventilateurs, et le soin de la personne, avec des sèche-cheveux.
Alor ne cesse d'innover, ça fait partie de son ADN. Il s'inspire d'ailleurs des consommateurs pour proposer des produits toujours plus innovants. Par exemple, on a vu il y a plusieurs années les consommateurs qui souhaitent pouvoir défroisser leurs vêtements très rapidement, sans contrainte, un peu au dernier moment. Et donc en 2016, Alor justement a lancé son premier défroisseur vapeur, donc qui est un appareil compact, léger et qui permet de défroisser les vêtements à la verticale et de manière très simple. Et c'est aussi une nouvelle façon de repasser qui a vu le jour. C'est une façon de repasser plus rapide, immédiate, mais en s'inspirant aussi des consommateurs.
Alors pour un fer à repasser Alor, il y en a pour toutes les bourses. Cela peut démarrer à une trentaine d'euros. Et Alor appartient au groupe Seb, leader du petit électroménager dans le monde. Mais l'entreprise Alor reste très française. Les produits ne sont vendus qu'en France et en Belgique.
Merci Charlotte Barrican pour cette saga du jour. On en sait beaucoup plus grâce à vous sur Alor, hein, l'inventeur du fer à repasser électrique en 1917. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Et avec vous Valérie Dacier, directrice générale adjointe d'IKKS. Valérie Dacier, les fers... Moi c'est marrant, de plus en plus quand je rentre dans les magasins, on voit les femmes ou les hommes qui repassent avec des fers à vapeur, c'est
oui,
ça ?
C'est ça.
Hein,
c'est ça.
Vous avez investi massivement là-dedans, j'ai l'impression.
Bah oui, parce que je trouve que acheter un produit dans une boutique, c'est avant tout se faire plaisir. Il faut donc que le produit que vous voyez quand il est sur son cintre vous donne envie. Et donc, ce produit, il est transporté de notre entrepôt jusqu'aux boutiques. Et donc, il faut le repasser. Ça, on appelle ça des steamers.
C'est
ça qui est terrible, c'est que c'est des inventions françaises. Et au final, on appelle ça des steamers, alors qu'on devrait trouver un petit nom joli français. Ouais. Et effectivement, les équipes ont pour mission de présenter le produit au mieux qu'il doit être, comme il doit être dans votre penderie et comment vous allez l'essayer, qu'il n'y ait pas un pli.
Voilà. Et ça veut dire quoi, IKKS, alors ?
Alors, IKKS, c'est phonétiquement, c'est X.
X.
En fait, le fondateur Gérard Le Goff, quand il a lancé la marque Enfant à l'époque, voulait appeler la marque X, la lettre X. Bon, et puis, très étonnamment, on le lui a refusé, je ne sais pas pourquoi.
Il y avait les vêtements Z, il aurait pu.
Alors Z, c'est arrivé après.
Ah d'accord. Oui.
Et donc X pour de l'enfant, je pense qu'il y a eu un truc qui a bloqué quelque part. Et donc, il s'est dit, je vais l'écrire phonétiquement, d'où le IKKS qui fait X.
Voilà. Oui, mais vous le reprenez là dans votre film publicitaire récent. Là.
Exactement.
Vous dites X.
Exactement.
Ça, c'est le vrai retour aux sources, quoi. La liberté, le ton libre, la disruption et la marque X.
Ouais, bah écoutez, vous le dites tellement mieux que moi.
C'est toujours mieux,
ça.
Nathalie.
Quand on repositionne une marque, la marque a toujours été très belle, mais peut-être qu'elle avait été un peu floutée d'un point de vue
d'image. On ne savait pas très bien ce qu'on est faire chez
voilà.
Vous.
Et pourtant,
elle avait rien
de
très différent, en fait.
Il y a toujours eu un ADN très fort, peut-être ça s'est flouté dans le temps. Et donc, on s'est dit, avec notamment l'arrivée du nouveau PDG Ludovic Manzon, qu'il fallait qu'on reclarifie ce qu'était IKKS et le retour aux sources, X. Effectivement, on a appelé ça la génération X, celle qui refuse l'absurdité, qui se bat pour ses libertés et qui surtout voit le monde tel qu'il doit être demain. Voilà, donc on a écrit un joli manifesto. C'est pas facile de prendre la parole en tant que marque dans ce monde d'aujourd'hui. C'est assez rare.
Surtout, hein.
C'est assez rare, mais nous sommes la génération X, décidé d'être des esprits libres malgré le contexte. Voilà.
Des esprits libres et audacieux. IKKS, c'est une marque française, mais vous êtes en train de vous développer à l'étranger. Hein. Vous venez d'ouvrir deux boutiques à Londres.
Voilà, on ouvre là le 19 mai et début juin à Londres. On a ouvert trois boutiques en Chine également.
Mais c'est marrant, c'est contre-intuitif quand même, parce qu'en ce moment, on se dit, bon, le numérique fait l'affaire, on va pas en plus s'encombrer de loyers, de personnel, d'approvisionnement. Pourquoi cette stratégie ?
Ah, parce que, je suis une femme du digital, mais je vais peut-être vous étonner, je ne crois pas au tout digital, voilà. Je crois que la relation humaine dans une boutique, cette relation qu'on a avec quelqu'un qui va vous rendre belle ou vous rendre beau ou vous rendre service dans votre choix parce que vous n'êtes pas sûr de vous, ça c'est incontournable et jamais un site internet ne permettra de le faire. Donc quand on a l'envie de présenter à nos clients de jolis produits, de jolies histoires, Rien de mieux que de l'incarner. Et donc, le magasin restera toujours la clé, à mon avis, du commerce de détail.
Vous restez avec nous, Valérie Dassy, directrice générale adjointe de la marque IKKS. Il est 13h40 sur Europe 1. Vous allez maintenant accompagner et coacher un entrepreneur qui se lance. Vous êtes prête ?
Génial.
On
top.
Y va.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
C'est parti pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Chaque jour, elles ou ils ont une minute pour nous convaincre. Et pour cela, ils exposent leur projet devant la patronne du jour. Aujourd'hui, elle est attentive, elle est exigeante, elle est bienveillante. C'est une experte. Elle s'appelle Valérie Dassy. Vous êtes la directrice générale adjointe de la marque de vêtements IKKS. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Et aujourd'hui, on vous présente un projet qui a été lancé il y a 2 ans. Bonjour pour Philippe Berbesque.
Bonjour.
Bienvenue dans La France Bouge. Vous avez 39 ans, vous venez de Nantes.
Exactement.
Et vous êtes le fondateur de Papa M'habille. Allez, d'abord, le nom est très sympa.
Hein,
je tiens à vous le dire. C'est une marque de vêtements pratiques, confortables, très doux, j'en ai à côté de moi, destinée aux enfants âgés de 0 à 3 ans. Vous, vous êtes graphiste de formation. Vous avez pas mal voyagé. Vous êtes allé en Inde. Vous y avez rencontré votre femme. Vous avez eu vos enfants. Et à partir de tout cela est née cette idée de Papa M'habille. Le reste, vous allez nous le raconter et vous avez une minute pour votre pitch. C'est parti.
Avec plaisir. Alors, Papa M'habille, c'est une marque éco-responsable pour les 0-3 ans. Donc, on a voulu efficace et dynamique. Moi, je suis parti du constat personnel que quand j'étais en train d'habiller ma fille sur la table allongée, avec certains vêtements, j'avais un petit peu du mal. Je n'étais pas toujours à l'aise. On trouvait des boutons un peu petits ou des matières un peu fragiles. Donc je prenais pas vraiment de plaisir à l'habiller, donc j'ai regardé un peu ce qui se faisait autour de moi et je me suis rendu compte qu'en fait que les marques s'adressaient très rarement au papa en fait, donc même dans l'entourage en fait de la famille, quand on offre des vêtements, c'est souvent à la maman qu'on les offre, donc le papa est un peu mis de côté. Donc je me suis dit voilà, en créant Papa M'habille, on va inclure le papa dans les vêtements aussi, dans le dressing des enfants. Et nous, on a aussi envie de mettre la lumière sur tous ces nouveaux papas qui sont hyper présents, hyper délicats. Donc, comme on aime bien dire, Papa M'habille, c'est la douceur du papa et du coton bio.
C'est très joli. Hein. Il est poétique, je trouve, le pitch de Philippe Berbesque. Vous ne trouvez pas, Nathalie ?
Oui, complètement. Hein, complètement. On va laisser les papas habiller nos enfants.
Voilà, mais c'est très bien. C'est une bonne idée. Vous l'avez lancé en 2020, pendant le premier confinement. Hein. Bravo,
hein,
il fallait oser. Hein.
C'était pas facile.
J'imagine, non, c'est très simple. Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses de Papa M'habille selon vous ?
Alors donc vous avez inventé une marque pour qu'un papa qui ne comprendra jamais pourquoi quelqu'un, un humain normalement constitué, a inventé une barboteuse avec 14 boutons tout petits, puisse enfin enfiler un vêtement à sa fille sans se prendre la tête. Mais alors je vous explique en fait, nous aussi ça nous gonfle.
Mais
hein.
Oui, c'est pas forcément les papas.
Non mais c'est,
hein.
Vous voyez, c'est ça. Non mais sauf qu'on est peut-être plus patiente en fait. Et surtout quand il faut changer la couche plusieurs fois par jour. Donc merci. Fabrication européenne, coton bio, tout ce qu'on aime. Puis vous avez un choix de couleurs limité, comme ça, tout va avec tout. C'est l'efficacité au quotidien. Alors, je n'ai pas de point amélioré, mais quelques idées. Déjà, une idée pour simplifier encore plus la vie des papas, peut-être avec des packs. Le pack essentiel de bébé, par exemple, 6 body, 4 pantalons, 4 pyjamas, etc. Puis, vos vêtements vont jusqu'aux 36 mois, 3 ans. Qu'est-ce qui se passe après ? Votre solution est super, mais
oui, si on est trop accro à vous, on fait comment ?
Eh ben voilà, eh ben exactement. Donc en fait, vous mettez les papas et les enfants dans une espèce de bulle de confort vestimentaire et qui s'arrête subitement. Surtout que si l'enfant est un peu grand, il s'arrêtera de mettre du 36 mois dès 2 ans. Hein. Et à cet âge, il n'est pas encore autonome, à 3 ans non plus d'ailleurs, il n'est pas autonome pour s'habiller.
Bah même à 16 parfois.
Ouais. Oh, j'en sais pas.
Mais vous êtes concernée, Nathalie.
Et à un moment donné, en fait, les enfants vont choisir eux-mêmes leurs vêtements, vous allez voir. Il faudra que vous les aidiez à coordonner les couleurs, à boutonner lundi avec lundi, à clipser, à scratcher, etc. Et ça arrive plus tôt qu'on ne le pense, même pour les garçons. Alors vous pourriez peut-être faire des vêtements jusqu'aux 6 ans, mais ça risque de devenir compliqué pour satisfaire tous les goûts des enfants qui commencent à s'affirmer quand même assez tôt. Alors peut-être une autre idée. Et si vous deveniez l'école des vêtements pour enfants ? Bon, je m'explique. Les vêtements pour bébé, vous restez sur la version basique, hyper efficace. Et petit à petit, au fil des âges de l'enfant, vous ajoutez une petite difficulté vestimentaire. Un bouton un peu plus petit, une fermeture éclair, un petit nœud. Vous savez, le petit nœud qu'on n'arrive jamais à faire, etc., etc. Et puis, vous travaillez aussi sur l'apprentissage de la coordination des couleurs. Trois ou quatre couleurs pour les bébés, puis un peu plus au fil des âges. Mais avec un guide. Quelle couleur s'assemble bien avec quelle autre ? Vous pouvez encore aller un peu plus loin. Je mets quel gilet avec une robe ? Je mets quelle chaussette avec un short ? Le noir et le bleu marine, ça se fait ou ça se fait pas ? Bref, un apprentissage petit à petit pour papa et pour l'enfant, pour aborder ensuite l'habillage traditionnel de façon sereine. Papa et bébé deviennent autonomes ensemble, petit à petit jusqu'à devenir de vrais fashion experts. Plus qu'aucun froufrou boutonnière ne pourra effrayer. Et pas d'apprentissage sans échange entre pairs. Vous pouvez donc créer une vraie communauté d'échanges de bonnes pratiques, des trucs et astuces. Tous ces échanges seront en plus votre source d'inspiration pour développer votre marque. Papa Mamie, c'est la marque de vêtements pour enfants qui développe les super pouvoirs des papas et des bébés.
On l'applaudit ou pas ?
Ouais, j'adore.
On l'applaudit, bravo. Bravo, Nathalie. Non, franchement, c'est exactement... Enfin, voilà, je vous voyais ouvrir grand les oreilles et grand vos yeux aussi. Il y a plein de conseils hyper pratiques. Cette communauté de papas, elle peut être très précieuse pour vous.
Oui, je suis entièrement d'accord. Il y a plein de bonnes pistes que je pense que je vais suivre de près.
Ouais. Mais et pourquoi ne pas aller au-delà de 3 ans ? Vous y avez déjà réfléchi ?
On a commencé...
Bon, ça n'a que 2 ans, voilà, il faut se remettre...
C'était l'idée et on a... très légèrement commencé avec les Teddy qui vont jusqu'à 7 ans.
Ah, quand même.
Bah, parce que j'ai une grande fille et qui me disait, papa, c'est toujours son petit frère qui est habillé et pas elle. Donc, je me suis dit, allez, on va essayer d'aller jusqu'aux 7-8 ans pour les Teddy parce que c'était pratique. Mais oui, on a quand même comme but d'augmenter les tailles et d'augmenter la production.
En plus, les prix sont assez corrects. Hein, c'est quel est le prix moyen ?
Entre 16 euros et 39 euros.
16 euros, 39 euros. Qu'en pense notre experte et notre témoin du jour, Valérie Dacier, directrice générale adjointe d'IKKS ?
Bah alors, deux choses. La première, c'est que toujours un grand chapeau à ces entrepreneurs qui partent déjà d'une expérience personnelle qui est assez sympa et qui arrivent à réaliser des leur rêve, l'entrepreneuriat, c'est pas facile tous les jours. Et puis, grand bravo à l'équipe ici, parce qu'en fait, vous êtes venu pitcher une minute et je pense que vous êtes reparti avec votre business case pour les 3 ans qui viennent.
C'est le but de la France
avec,
bouge.
Avec toutes ces influences, donc bravo. Évidemment, les pères ont changé. L'homme a changé. Nous, on avait sorti un claim qui était « No time but style », c'est-à-dire les hommes qui n'ont pas le temps parce qu'en fait, ils sont pères. Ils ont leurs copains, ils ont la moto, ils ont le sport, mais ils sont plus qu'ils étaient et ils ont envie d'être beaucoup plus impactés et présents avec leur famille et leurs enfants. Et effectivement, ils sont souvent mis à l'écart. Et quand on leur dit ce qu'ils sont et qu'on les valorise sur ce qu'ils sont et que d'être un père comme ça aujourd'hui, ben c'est valorisant. Ils sont hyper contents. On avait reçu ce sentiment-là quand on avait abordé. Donc bravo pour l'idée.
Merci.
Jouer sur le binôme entre père et fils, parce que, ou père et fille, il y a toujours des liens très forts dans le père et fils. Je suis ton père, tu es mon père, tu es mon fils. Enfin, il y a des choses assez marrantes à faire, mais c'est une super idée. Évidemment, le confort. Les hommes recherchent le confort pour eux, la fonctionnalité, et donc pour leurs enfants. C'est totalement logique. Bravo, l'idée
donc,
super.
Donc, l'idée super, vous validez, Valérie Dacier. Il n'y a pas un truc à faire avec Papa Mabi et IKKS ?
En fait, moi, c'est pareil. Hein. Je ressors de l'émission. J'ai aussi deux, trois projets.
Mais
c'est mon équipe qui va être contente parce qu'elle me reproche d'en avoir trop. Mais malheureusement, en ayant ce type de contact, il y a toujours plein de choses à faire. Bravo,
vous reviendrez nous en parler. Ça s'appelle Papa Mabi. Merci, Philippe Berbesque, d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge pour nous présenter votre projet d'entreprise. Et puis, chers auditeurs, si vous aussi vous avez envie de nous envoyer votre projet, si vous avez envie de venir pitcher ici autour de la table de La France Bouge, il n'y a qu'une seule adresse.
Et c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et promis juré, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures.
Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir. La cérémonie aura lieu le 29 juin et on va vous en parler, ça va être extraordinaire, des tas de pépites et de talents français. Il est 13h50 sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Et c'est déjà la dernière partie de votre émission, La France bouge. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie et notre grande patronne du jour, Valérie Dacier, la directrice générale adjointe d'IKKS. À La France bouge, on aime mettre en avant les entreprises qui placent le capital humain au cœur de leur stratégie. Comme chez vous, Jean-Philippe Romero, bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Vous êtes le PDG du groupe CF Compagnie Fiduciaire, hein, cabinet français d'expertise comptable, 800 salariés dans votre entreprise. Vous accueillez près de 70 alternants. L'objectif, c'est d'en avoir 100. Alors pour cela, vous avez mis au point un programme quasiment sur mesure, hein, pour eux. Vous êtes parti du principe que, du constat que le coût de la vie est très élevé. Et donc, vous avez mis en place une prime mobilité.
Oui, c'est exactement ça. On avait le souhait d'abord d'augmenter notre arrivée de nouveaux collaborateurs, puisque le groupe se développe. On a une forte croissance cette année, puisqu'on a progressé de 14% dans nos activités. Et effectivement, il fallait absolument que l'on renforce nos équipes. Et finalement, on a choisi de prendre des contrats en alternant pour pouvoir les accueillir, les former, puis qu'ils puissent faire carrière, on va dire.
Oui, et puis les garder. L'objectif, c'est aussi de les garder. Exactement. Une fois que vous les avez formés. Donc, vous vous remboursez, par exemple, vos alternants qui candidatent d'ici le 30 juin. Vous vous remboursez quoi ?
Eh bien, on rembourse, c'est une forme de welcome bonus. Alors, en général, c'est plutôt les managers qui ont droit à ça. Eh bien non, cette fois-ci, ce seront les alternants.
Ça change.
Ça change. Ce sont des jeunes qui débutent dans le métier pour qu'on soit beaucoup plus attractif. Et donc, on va rembourser leurs frais de première installation. Hein. Ils vont certainement avoir un dépôt de garantie à payer, des premiers loyers, un équipement de mobilier, pourquoi pas une trottinette. Et puis, plus anecdotique, peut-être penser à envoyer un bouquet de fleurs à leurs parents pour les remercier de les avoir.
C'est vachement bien. Hein. Franchement, tout le monde devrait prendre exemple sur vous. Hein. Ça marche, vous les...
Eh bien, écoutez, pour l'instant, ça marche. Oui, on est plutôt satisfait puisque on a commencé cette opération il y a relativement peu de temps. Hein. Ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on communique dessus. Et aujourd'hui, on a signé déjà 32 contrats en alternance supplémentaires par rapport à ce que l'on avait jusqu'à présent. Et donc, on a 32 jeunes qui vont débuter avec nous le 1er septembre.
Voilà, ça, c'est une belle initiative positive qu'on avait envie de mettre en avant. Merci à vous, Jean-Philippe Romero, PDG du groupe de la compagnie fiduciaire. Nous sommes toujours avec Valérie Dacier, directrice générale adjointe d'IKKS. Vous l'avez dit, ça marche bien. Est-ce que ça signifie que vous recrutez cette année ?
Alors oui, on a deux piliers, je vous le disais tout à l'heure. Hein, le digital est évidemment un pilier de croissance important. Donc il y a des postes aujourd'hui qui sont ouverts dans le digital. Et puis on se développe à l'international. Donc
avec l'ouverture des boutiques à Londres. Donc on peut postuler. Vous disiez que le numérique était un de vos piliers essentiels. Votre actualité, c'est aussi le métaverse. Vous avez participé à la Fashion Week fin mars qui s'est déclinée sur le métaverse. Et vous avez eu un stand virtuel. C'est une première ça aussi.
Oui, alors IKKS a une tradition d'audace, on le disait tout à l'heure,
notamment vous êtes allé loin, là.
D'innovation dans le digital. Et donc, on est la première marque française à avoir participé à la première Fashion Week mondiale sur un métaverse, donc ce monde virtuel un peu étonnant pour les gens qui n'y sont pas encore aujourd'hui. C'est un monde de création totale. Donc là, en l'occurrence, c'était sur Decentraland. Le métaverse, pour expliquer à nos auditeurs...
Qu'est-ce que ça vient faire dans la mode, en fait, j'ai envie de vous dire, pour un client classique chez vous ?
Le métaverse, c'est le monde des avatars. Les avatars doivent être habillés. Et aujourd'hui, ces personnes qui sont dans le métaverse ou dans des jeux, dans du gaming, achètent des vêtements pour leur avatar, parce qu'un avatar, c'est une projection de ce que l'on est.
On a de l'image que l'on a envie de dégager aujourd'hui.
Nous-mêmes, dans la vie réelle, on est une projection de ce que l'on veut dégager comme image. Donc,
ça a bien marché ?
Ouais, on a eu énormément de visites. On a fait plus de 40 000 visites en 3 jours. On avait donc notre première boutique virtuelle, 100% virtuelle, à l'image de Fabio Quartararo, sur 2 étages dans la rue de la Fashion Week. Un défilé d'avatars.
Et tout ça, c'est le point de départ d'autre chose. C'est encore une nouvelle page qui s'ouvre pour IKKS.
Oui, je pense qu'il faut qu'on soit tous conscients que le métavers, c'est l'équivalent du e-commerce d'il y a 25 ans. Et on en est aux prémices et tout est possible. Et aujourd'hui, IKKS a envie d'y être le plus rapidement possible.
En tout cas, nous, on l'a bien compris. Merci à vous, Valérie Dacier, d'être venue aujourd'hui dans la France.
Merci
Bouge. Vous êtes la directrice générale adjointe d'IKKS. Nathalie Carré, nous, on se retrouve demain. Demain, ce sera la veille de la nuit des musées. On reçoit la directrice adjointe du musée du Quai Branly. À demain, dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelatte.